Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen, vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier et nous sommes ce soir le 26 octobre 2017 pour la deuxième donc de la série avec une émission comme annoncé qui va porter donc sur la malédiction, les malédictions égyptiennes autour de l'histoire des momies maudites, Toutankhamon, etc., etc. Alors, l'émission de ce soir va s'organiser, chers amis, donc en deux parties, trois parties même. Une première qui va revenir sur l'histoire tout simplement. On va revenir sur l'histoire de l'Égypte, sur un peu le cadrage, le rappel de ce qu'a été cette civilisation tout simplement. Ensuite, on abordera l'origine en quelque sorte de ce que fut la malédiction donc des momies, enfin, qui a retenu d'ailleurs l'attention de plusieurs films hollywoodiens, y compris tout récemment ce film avec Tom Cruise, que sans doute vous avez vu, sur la malédiction de la momie. Enfin, ce sont des blockbusters, comment dire, bien connus. Et donc on verra en quoi cette malédiction, de quoi il s'agit. En fait, on verra que tout simplement ça repart d'une malédiction bien connue, de faits divers, disons de l'entre-deux-guerres, autour de la redécouverte de la tombe, donc pas la redécouverte, mais disons la découverte tout simplement de la première tombe, en fait intacte ou prétendue intacte, d'un pharaon, en l'occurrence Toutankhamon, ce pharaon mort si jeune à 18 ans, donc de la 18e dynastie. Et puis on terminera avec une petite conclusion sur cette question donc des momies et de leur malédiction, pour voir quand même tout simplement dans un certain sens en quoi ces malédictions de momies en fait sont quelque part un peu dans notre tête. Alors, en premier, je crois qu'on doit évoquer bien sûr ce qu'est comment dire cette civilisation égyptienne qui intéresse tellement de contemporains et encore qui fait encore aujourd'hui rêver, tant et si bien que comme vous le savez, l'histoire est toujours dans des carrefours avec le présent. En quoi eh bien, un jeu comme, et j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, comme, donc, en l'occurrence, que je me souvienne, quel est ce jeu célèbre qui est sorti, qui va sortir d'ailleurs demain, un énième épisode qui s'appelle effectivement Les Origines, et qui va porter justement sur la question des momies et surtout de l'Égypte antique. Donc jusqu'à des jeux ultra comment dire contemporains, eh bien la question de l'Égypte est très présente et fait encore rêver. Alors en effet, dans l'histoire même, donc de l'Égypte antique, on remonte à extrêmement loin dans l'histoire. première partie de cette émission de ce soir. Hein, on remonte à 5000 ans, hein, 5000 ans avant notre ère, hein, c'est-à-dire le 6e siècle avant l'ère chrétienne, hein, 6e millénaire, hein, 6000 ans, hein, 5000 ans, 5000 ans, 6e millénaire avant notre ère, hein, avec l'époque prédynastique et la période dite du roi scorpion. Ce sont les premières traces, hein, au néolithique, hein, vous imaginez la distance historique que cela représente, hein, de l'Égypte antique, hein, et des premiers monuments. Hein. Toujours installés dans la même région, hein, de l'Afrique en fait. Nord, hein, limite même avec le Proche-Orient, hein, qui est cette vallée du Nil, hein, qui par un fait géologique, géographique bien connu, hein, produit une crue, hein, qui a lieu plusieurs fois par an et qui permet en effet, hein, aux différents peuples qui vont s'installer, les civilisations qui vont se développer tout autour, eh bien, tout simplement de bénéficier d'une plaine extrêmement fertile. C'est là, hein, autour de ce simple fait géographique, eh bien, que dans la vallée du Nil va se développer cette civilisation égyptienne. On est là, mes chers amis, ce soir, autour d'un monde, hein, des premières civilisations de l'écriture. On sait que c'est à Sumer, hein, c'est-à-dire dans une autre vallée, hein, entre le Tigre et l'Euphrate, hein, au Proche-Orient, hein, dans cette région qu'on appelle l'Irak, hein, aujourd'hui, que les premières civilisations sont apparues. Vous savez qu'on distingue une civilisation tout simplement du fait, hein, qu'on passe évidemment d'une tradition orale à une tradition écrite. C'est ce qui nous fait rentrer dans l'histoire. Il y a Sumer, hein, bien sûr, qui est une civilisation extrêmement ancienne. Et puis, de proche en proche, on arrive à la période égyptienne, hein, civilisation qui, elle aussi, va se manifester par une écriture. Et quelle écriture, hein, quelle écriture, puisqu'il s'agira, hein, des fameux hiéroglyphes, hein, qui, comme vous le savez, seront traduits, compris, hein, par un scientifique français qui s'appellera Champollion au XIXe siècle, hein, et qui va comprendre simplement la signification de la pierre de Rosette. La signification de cette pierre, on y reviendra plus tard, hein, une pierre qui comportait un texte en hiéroglyphe, un texte en copte et un texte en grec ancien. Et voilà notre Champollion. Champollion, savant, érudit, hein, du milieu du XIXe siècle, qui va s'arracher les cheveux, si on peut dire, hein, pour essayer d'arriver à comprendre. Et c'est lui qui va trouver la clé de cette langue, hein, de ces fameux hiéroglyphes égyptiens. Et par cette pierre de Rosette, qui a été ramenée, rappelez-vous, par les armées de Napoléon, hein, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, la fameuse expédition d'Égypte. Je ne ferai pas injure ce soir à nos web auditeurs, hein, de se rappeler de ce qu'était cette expédition d'Égypte, commandée par un certain général Bonaparte, hein, qui finira empereur, comme vous le savez. Mais là, nous sommes encore à la fin de la Révolution française, expédition d'Égypte, qui à la fois comportait évidemment une expédition de type militaire, puisqu'il s'agissait pour la France d'aller damer le pion de l'influence britannique dans la région, britannique. Éternel ennemi de l'époque, hein, surtout pendant la Révolution. On ne développera pas ça, c'est pas le propos de ce soir. Et deuxièmement, bien sûr, parce que nous sommes encore dans ce 18e siècle de la connaissance, ce 18e siècle, comment dire, de la quête du savoir, hein, ce 18e siècle de l'encyclopédie, hein, de Diderot et d'Alembert, ne l'oublions pas. Que, bien sûr, une telle expédition à l'époque, face à cette civilisation dont on était en pleine redécouverte, hein, que d'Égypte, eh bien, il s'agissait de partir avec une armée aussi de savants. Hein. C'est bien sûr, hein, bien sûr, le fameux livre de l'expédition d'Égypte, ce Mutus Liber, si je puis dire, de la fin du XVIIIe siècle, où va être consigné, on peut le trouver aujourd'hui, moi-même j'en ai un exemplaire, tout ce qui va être relevé par les savants dans les sillages des armées de Bonaparte, du haut de ces pyramides, 17 siècles vous contemple, je ne développerai pas cette phrase célèbre du général Bonaparte devant les pyramides. Car en effet, avec l'Égypte, c'est bien de cela qu'il s'agit quelque part. C'est bien d'une civilisation qui nous échappe complètement. Autant avec la Grèce, Rome, les civilisations du bassin méditerranéen, occidental, quelque part, on est dans une culture que nous connaissons, les colonnes, les temples, etc. Avec l'Égypte, encore une fois, on plonge 5000 ans avant notre ère, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelque chose qui est extrêmement lointain. Et une civilisation qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec le monde gréco-romain, redécouvert dans notre Renaissance du 16e siècle, rien à voir avec ce monde-là. C'est vraiment quelque chose d'autre, une civilisation à part entière, qui a existé pendant à peu près 5000 ans, ce qui est considérable, et qui a développé des empires et toute une culture liée profondément à, évidemment, la religion qu'ils avaient organisée. Et cette culture va laisser des traces. Des traces qui vont profondément marquer, les peuples, qui vont ensuite, dans l'antiquité classique, si on peut dire, du début de l'ère chrétienne, visiter ces régions. L'historien Hérodote, par exemple, bien connu, Hérodote, va consigner dans ses histoires ce qu'il va voir alors qu'il va se promener dans l'Égypte. Alors, une autre Égypte, bien sûr, celle de la fin, de l'immédiate fin de la période avant le début de l'ère chrétienne. Une Égypte donc ptolémaïque, héritière des grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, du 4e siècle simplement avant notre ère, alors que là je vous parle, moi, de 5000 ans avant notre ère. Quelle différence, mes amis, quelle différence entre les années 300, moins 300 avant Jésus-Christ, et moins 5000. Vous imaginez de l'abysse que cela représente et de l'ancienneté de la culture de la civilisation égyptienne, de ces pyramides qu'ils vont laisser, de ce sphinx, de ce site absolument étonnant de Gizeh, qui encore aujourd'hui est un monde complètement intemporel. Et enfin, la mémoire me revient, car tout bon historien a de la mémoire, même si elle flanche parfois, après une longue journée, vous m'en excuserez. Il s'agit bien de la série de jeux vidéo Assassin's Creed, qui sort demain le 27 octobre, un volet Assassin's Creed Origin. Je vous en recommande de voir les vidéos sur YouTube et autres sites, où vous verrez effectivement qu'on place la série, cette fois-ci, avec ce jeu vidéo extrêmement populaire, se passe évidemment en Égypte. Manifestement dans l'Égypte ptolémaïque, puisque on y trouve des Romains, donc on se trouve un peu dans une période que nous connaissons bien, celle des fameuses amours, n'est-ce pas, entre Marc Aurèle et la reine Cléopâtre, donc la fameuse période de la guerre civile romaine qui s'est mis racontée, dans tout un tas d'historiens comme Tacite, comme Dion Cassius, etc., comme Tite Live. Mais il ne s'agit pas de cela ici, il s'agit simplement de montrer à quel point l'Égypte d'un jeu vidéo ultra populaire jusqu'aux brumes qui nous amène, brumes de l'histoire, à 5000 années avant notre ère, est évidemment une bisectrice historique tout à fait extraordinaire et riche, très très riche d'histoire. Alors pourquoi pas, bien sûr, pourquoi pas, y trouver aussi des légendes et des histoires, bien sûr, de malédictions, puisque c'est le thème quand même de ce soir. Alors, cette histoire, évidemment, de l'Empire égyptien, un des premiers empires de l'histoire humaine, hein, tout simplement, cette histoire de l'Empire égyptien, les premières traces commencent avec le roi Scorpion, le fameux roi Scorpion, vous savez, c'est celui dont il est question dans la fameuse Malédiction de la momie, blockbuster bien connu, dont un dernier épisode a été encore tourné il n'y a pas longtemps avec Tom Cruise, qui paraît-il avait un certain succès. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la période de Narmer, à l'époque tinnite, de 3100 à 2700 avant notre ère. Hein. Narmer, qui a été le premier unificateur de l'Égypte, c'est la première dynastie. Donc, vous noterez que l'histoire de l'Égypte commence avec le néolithique, hein, 5000 ans avant notre ère. On est là dans des périodes extrêmement anciennes. Et vous comprendrez bien sûr que tous les progrès de la technique de datation historique font que, bien sûr, nous sommes dans des dates, vous le comprendrez, où on n'est pas à un siècle près, hein, on serait plutôt à un millénaire près. Hein, ce qui donne quand même une forme de relativisme historique, hein, et ça aussi vous le comprendrez, sur le fait que plus nous reculons dans l'histoire, plus nous allons loin dans l'histoire, moins, si vous voulez, la netteté des dates est une évidence. Et que bien sûr, cette chronologie qui devient de plus en plus floue, plus nous reculons, a un impact sur la période actuelle. J'avais déjà discuté dans un certain nombre d'émissions, peut-être pas ici, mais ailleurs, sur les fameuses théories du récentisme. Le récentisme est un mouvement, de réflexion historique, complètement borderline, je vous rassure, complètement à la marge, je vous rassure. Évidemment, il y aura de question de dire ce soir que je suis un récentiste, parce que je mettrai un terme à ma carrière immédiatement, puisque je suis un peu historien, comme vous le savez. Mais néanmoins, on doit se poser cette question. Question extrêmement importante. Extrêmement importante parce que, en fait, comme je vous le disais, plus nous reculons dans le temps, moins nous avons de dates précises. Et en effet, on n'est pas dans la chronologie historique de base, à 100 ans près, quand on parle des années moins 5000. Qu'est-ce que c'est que la différence à l'époque du néolithique entre du roi Scorpion, entre moins 5000 et moins 5100? Vous voulez bien me le dire. Bien sûr que c'est ridicule. Ce qui veut donc dire que par répercussion, bien sûr, il est tout à fait, il serait, selon les théories récentistes, tout à fait possible, mes amis, que nous ne soyons pas ce soir en 2017. Hein, nous pourrions très bien être en 1917, hein, en 1817, qu'est-ce que c'est que 100 ans, hein, sur un tel calendrier? Je vous invite à vous poser la question. Moi, bien sûr, je me cantonne dans l'histoire officielle, mais j'estime que cette réflexion que pose le récentisme, et il en était déjà question dans pas mal d'émissions avec notre ami Jean-Claude Carton, aujourd'hui disparu et qui nous manque bien, hein, mais néanmoins, j'estime que cela mérite une certaine réflexion. Régulièrement, on retrouve des mises à jour des calendriers, hein, faites par des historiens très sérieux qui nous corrigent, hein, la chronologie dans laquelle nous sommes, de quelques minutes, de quelques jours, hein, etc., etc. Donc le débat existe. Le débat existe, évidemment. Il suffirait un jour de tomber sur un document majeur, hein, pour prouver que nous avons, et peut-être cela arrivera, on ne sait pas, que nous avons un décalage d'un siècle ou deux quand même dans notre calendrier, ce qui ne serait pas étonnant. Et ce qui, bien sûr, j'invite là, évidemment, je provoque un peu quelque part tous les tenants de la fameuse théorie, vous vous souvenez du 21 décembre 2012, hein, il disait, ben voilà, les Mayas, le 21 décembre 2012, ont calculé la fin du monde pour ce jour-là. Ben oui, mais posez-vous cette question. Est-ce que le 21 décembre 2012, nous étions vraiment le 21 décembre 2012? Ben moi, j'ai tendance à penser, quand je vois des calendriers comme celui de l'Égypte dont je vous parle ce soir, à vous dire que non, tout simplement. Nous étions peut-être, effectivement, bien avant. Invitation au débat. C'est après tout le but d'une émission d'histoire ouverte comme celle que l'on souhaite faire ce soir sur Terrazen. Revenons-en à nos Égyptiens quand même, parce que le temps tourne et nous avons une heure d'émission, et bien sûr, j'essaye cette fois-ci de faire une émission d'une heure, non pas comme la dernière fois, mais la dernière fois, nous présentions notre programme, c'était différent. Et donc Narmer est effectivement le premier empereur, le premier pharaon, hein, qui, avec la première dynastie, donc 3100 avant notre ère, hein, va unifier l'Égypte. Et ensuite, nous entrons dans le compute, hein, des périodes historiques, hein, de l'Empire égyptien. L'Ancien Empire, qui va durer de 2700 à 2200 avant notre ère, période quand même extrêmement importante. Hein. La capitale sera Memphis, hein, la fameuse ville de Memphis, hein, dont les sables, n'est-ce pas, sont célèbres, puisque enterrant notamment dans certaines traditions, si je puis dire, les traces même du présent. Hein, c'est une question symbolique, bien sûr. Et là, ça va être la période de la 3e, de la 4e, de la 5e et de la 6e dynastie, c'est-à-dire des pharaons, entre autres Djéser, dont on a retrouvé les traces, de Snéfrou, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les voilà nos pyramides, les fameuses pyramides de Gizeh, de ce plateau situé au sud du Caire, hein, qui aujourd'hui est gagné par la banlieue du Caire, polluée au possible, mais qui néanmoins est un site évidemment classé, hein, et protégé. Hein. Ben, nos fameuses pyramides, c'est 2600-2500 avant notre ère. 2600 ans avant notre ère. Mesurez, mes amis, nous sommes en 2017, que ces pyramides sont plus anciennes que ce qui nous sépare ce soir de l'an zéro de la naissance du Christ jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous mesurez la distance historique de la construction des pyramides? C'est hallucinant, c'est deux fois cette distance. Nous sommes à plus de 4000 ans de date de la construction des trois pyramides du plateau de Gizeh, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Et sachez, par-dessus le marché, et cela a été prouvé, que le sphinx, le fameux sphinx, hein, qui se trouve donc au pied du plateau de Gizeh, ben il est antérieur, c'est-à-dire qu'il était là bien avant le sphinx. Donc vous imaginez qu'on se situe avec l'Égypte antique, Gizeh, dans le berceau même de l'humanité tout entière. C'est absolument abyssal sur le plan historique. Et il ne faut pas s'étonner que dès lors, l'Égypte ait pu exercer une telle fascination sur les contemporains de notre propre antiquité, c'est-à-dire sur des gens comme Alexandre le Grand, ce grec, mais aussi tous les autres, Jules César, etc., etc., et jusqu'à aujourd'hui. Une fascination totale. 3e, 4e, 5e dynastie, 6e dynastie, c'est l'Ancien Empire, qui se termine sous les règnes de Pépi I et Pépi II. Et puis ensuite, car c'est l'histoire de l'Égypte. Hein. Alors évidemment, je vous recommande de lire, malheureusement il n'existe pas en français, cette source majeure qui est Manéthon. Hein. Manéthon, qui est publiée à la fois donc en grec d'un côté et traduit en anglais de l'autre, et qui est l'historien en fait grec, hein, de l'Empire égyptien. Hein. Je vous recommande de le lire. Toutes celles et ceux qui ont des références de bandes dessinées de dites de la ligne claire, hein, savent très bien que Manéthon est cité dans le fameux mystère de la Grande Pyramide, hein, bande dessinée célébrissime de Epic Jacobs, hein, racontant les aventures de Blake et Mortimer. C'est une bande dessinée, si vous ne la connaissez pas, que je vous invite très très fortement à aller vous procurer vite fait ou à aller lire dans une bibliothèque quelconque, parce que vous trouverez à quel point la qualité du travail de ce merveilleux auteur de bande dessinée qui était Epic Jacobs, c'est très documenté, avait pu faire sur ce mystère. Parce que bien sûr, qui dit Égypte, et c'est ce qui nous approche ce soir, ce qui nous amène ce soir, dit évidemment mystère. Mystère pourquoi ? Ben, mystère parce que ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Parce qu'encore une fois, autant vous trouverez probablement aucun mystère dans l'Antiquité grecque, et encore, c'est à relativiser, ou dans l'Antiquité romaine, que vous allez retrouver avec l'Égypte. Mais bien sûr, et pour quelle raison ? Et parce que nous avons une rupture totale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, au niveau des référencements, ne serait-ce qu'architecturaux ou religieux, avec ce qui constitue notre univers mental de l'Antiquité gréco-romaine. Car l'Antiquité gréco-romaine, pourquoi est-elle dans notre univers mental ? Ben pour une raison extrêmement simple, c'est que l'Antiquité gréco-romaine, on la redécouvre à la Renaissance, et que la Renaissance, qu'est-ce qu'elle va enfanter ? Eh bien sûr la période des Lumières, et la période des Lumières du XVIIIe siècle, comme vous le savez, a façonné notre monde moderne, hein, avec évidemment tout ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, hein, et dans le XIXe siècle, dans le cas de la France, c'est une évidence, mais aussi des pays occidentaux. Hein. Voilà pourquoi il y a une telle source de mystère qui naît dans nos esprits avec l'Égypte. C'est une évidence. Donc, de 2100 à 2035, on avance un peu, eh bien c'est la période intermédiaire de l'Empire égyptien. La capitale est toujours Memphis, de la 7e dynastie à la 8e, donc de 2200 à 2150. Et puis, aux 9e et 10e dynasties de 2170 à 2035, c'est la ville d'Héracléopolis. Bon, bien sûr, il y a Héracléopolis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est des mots, ce sont des noms grecs. Ben oui, parce que cette fameuse Égypte dont on parle ce soir, comme vous le savez, hein, à la fin de cette période avant notre ère, hein, à partir de la période la période d'Alexandre le Grand, hein, 4e siècle, ben, va être conquise, hein, par les Grecs. Hein, et que Alexandre le Grand va y laisser un de ses généraux qui va s'appeler Ptolémée. Et Ptolémée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fonder une dynastie égyptisante, hein, mais basée bien sûr sur la culture grecque. Hein. Donc il y a plein de noms, hein, de cités égyptiennes qui vont avoir des noms grecs. Hein. Héracléopolis, c'est la ville d'Héraclès, hein, c'est-à-dire d'Hercule. Moyen Empire, 2035 à 1780. 9e et 12e dynastie, 2140 à 1780 avant notre ère. Nous sommes pour la 11e dynastie avec une capitale qui est Thèbes, et pour la 12e dynastie, une capitale qui s'appelle El-Lisht. C'est la période des dynasties Antef, Montuhotep, Amenhotep et les fameux pharaons Sésostris. Puis c'est le Moyen Empire. 2035-1780. Et la deuxième période intermédiaire, 1780-1545, 13e dynastie, hein, donc avec comme capitale El-Lisht, 14e dynastie Xois, 15e dynastie Avaris, puis Memphis à nouveau, hein, et nous continuons notre chronologie jusqu'à des périodes, bien sûr, mes amis, qui vont davantage vous éclairer à quel point, une fois encore, avec l'Égypte, nous sommes si loin dans l'histoire. 16e dynastie, 1545. 17e dynastie, capitale Thèbes, de 1650 à 1560. Compute historique, vous voyez, commence à se réduire, normal, parce qu'on se rapproche de la période actuelle. Plus on s'approche de la période actuelle, moins il y a de flou. Hein. Quelle différence, hein, chers amis, entre 1815 et 2017, on a des repères de date. Bon. Plus on avance dans le temps, plus ces repères, évidemment, en se rapprochant de nous, deviennent clairs et précis. Nouvel Empire, et là, bien sûr, nous arrivons dans ce qu'on connaît, parce qu'on est quand même un peu plus de 1000 ans avant notre ère. Ça devient un peu plus clair. De 1545 à 1070, c'est la fameuse 18e dynastie, la fameuse 18e dynastie qui va ce soir tellement nous intéresser. Alors là, ça devient plus clair. 1560 à 1295, la capitale est Thèbes, sous le pharaon Akhenaton. C'est la période des pharaons Yamnès, les Aménophis, les Toutmosis, Hatshepsut, Toutankhamon, tiens, on va en parler ce soir, Haï, Horeneb. Et bien sûr, un nom, mes amis, qui ce soir vous fera encore rêver, la fameuse dynastie de Ramsès. Ramsès Ier, Séti Ier, Ramsès II, Neremta, Ramsès III, jusqu'à Ramsès XI. On voyage un peu en plein rêve, mais pourtant, tous ces souverains ont existé. Et cette 18e dynastie, elle nous intéresse particulièrement ce soir. Pour quand même une raison absolument importante, hein, ben parce que il y a bien sûr la fameuse affaire de Toutankhamon. Qui sait ce que c'est que ce Toutankhamon ? Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Et tout le monde le connaît pourquoi, Toutankhamon ? Ben parce que, au début du XXe siècle, ben, c'est la première tombe inviolée, ou prétendue inviolée, qui va être découverte, hein, par Howard Carter et Lord Carnarvon dans les années 20, hein, dans la Vallée des Rois. La Vallée des Rois, qu'est-ce que c'est ? C'est donc dans le désert du sud de l'Égypte, hein, un lieu où pendant des siècles et des siècles se sont fait enterrer les pharaons, hein, tout simplement pourquoi ? Parce que leurs tombeaux étaient régulièrement pillés. Et en effet, bien, à force d'acharnement, ces archéologues, on en parlera tout à l'heure, vont découvrir cette tombe inviolée. Et ce sera évidemment une découverte archéologique majeure du XXe siècle. Tout comme le fut, et j'insiste là-dessus, la découverte majeure, la redécouverte majeure de la ville de Troie. Hein ? Pour celles et ceux qui ont quand même une culture classique, et qui j'espère écouteront cette émission, qui ont lu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, hein, ben vous savez très bien ce que c'est que la ville de Troie. C'est cette fameuse ville qui a pour enjeu donc le fameux roman d'Homère qui s'appelle l'Iliade, hein, cette fameuse expédition menée par les Grecs pour libérer la reine Hélène, hein, dans la ville de Troie, hein, la Cédémone, hein, et tous les combats mythiques qui l'entourent, qui croyaient, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, hein, qu'on redécouvrirait, qu'on découvrirait un jour la ville de Troie. Tout le monde disait, mais c'est une ville mythique, elle n'existe pas, c'est Homère qui a imaginé tout ça. Ben pas du tout, parce que un archéologue allemand du nom de Schliemann, hein, fin 19e, va se mettre en tête que Homère, finalement, disait la vérité. Et il a redécouvert Troie. Et ça existait vraiment. Et aujourd'hui, Troie est en Turquie, comme vous le savez, et des millions de touristes visitent ce site tous les ans. Donc c'était vrai. Parfois, dans l'histoire, ce que l'on pense comme étant mythique, ben c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui, quelque part, doit animer chez tout jeune qui pourrait écouter cette émission, un jeune qui aurait entre 15 et 20 ans, le goût de savoir, d'approfondir les choses, et d'aimer ce qui est merveilleux dans l'histoire. Car tout n'est pas nécessairement un fantasme ou de l'instrumentalisation. Dans toutes les légendes, et je l'ai dit depuis le début de toutes ces émissions que j'ai pu faire ici, il y a toujours un fond de vrai. Tout et tout l'art de l'archéologue, de l'historien, ça va être justement de faire le tri entre la part de rêve et la réalité. Effectivement, Howard Carter et Lord Carnarvon, hein, surtout Carter, ce jeune archéologue qui va fouiller et refouiller pendant des décennies, vous allez le voir ce soir, cette vallée des rois en Égypte, va se dire « je vais trouver cette tombe mythique de Toutankhamon ». Et il va finir par la trouver. Et ce sera l'événement archéologique majeur de l'entre-deux-guerres, je peux vous le dire. On en reparlera tout à l'heure. Alors pourquoi cette 18e dynastie nous intéresse tellement ? 18e dynastie, celle de Ramsès II, Ramsès II. Vous savez très bien, vous avez vu, tout le monde a vu, ces fameux films hollywoodiens des années 50, les 10 commandements. Hein, Ramsès II est un des protagonistes. Ramsès II aurait été témoin, hein, du fameux exil des Hébreux, hein, et des 7 plaies d'Égypte. En effet, quelle est la part de réalité là-dedans? Je vous renvoie au film, hein, des blockbusters, encore une fois, qui a été tourné il n'y a pas très longtemps. Hein. Cette fois-ci, c'est plus Tom Cruise, hein, je crois que c'est Mel Gibson, si ma mémoire est bonne, hein, dans le rôle de Moïse, hein, qui nous livre une version, sa version en tout cas, des 7 plaies d'Égypte, hein, de la Pâque juive et du moment où le peuple hébreu étant tombé dans, comment dire, ces vicissitudes de l'histoire, hein, en esclavage en Égypte, hein, s'est libéré, hein, de l'autorité de Ramsès II, dont le cœur était endurci, n'est-ce pas, n'oubliez pas, hein, et ils sont partis pour franchir la mer Rouge, hein, et vous savez bien que Moïse a écarté les eaux et que ils sont passés de l'autre côté. Hein. À l'heure actuelle, c'est un immense débat entre archéologues de se dire, mais est-ce que c'est vrai? Alors on sait effectivement aujourd'hui que dans cette période, en effet, il y a eu des énormes problèmes climatiques, qui ont fait que on peut comprendre, on peut imaginer qu'il y a vraiment eu des pluies de cendres, qu'il y a vraiment eu des nuées d'insectes, probablement déplacées par des catastrophes naturelles, que la mer Rouge s'est peut-être asséchée, en effet, à un certain point, et que ce qui a permis aux Hébreux de traverser. C'est extrêmement intéressant, car même si tout cela sont des textes symboliques de la Bible, encore une fois, les recherches actuelles montrent qu'il y a un fond de vrai. Comme dans toutes les légendes, comme dans tous les textes symboliques, on n'a pas inventé toutes ces histoires. On a repris des faits que l'on a ensuite instrumentalisés à des fins, évidemment, de textes sacrés. Et c'est à ce moment-là, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, de cette 18e dynastie, que l'on a la confrontation entre les textes de l'Ancien Testament et ce que nous disent les historiens eux-mêmes de l'Égypte antique, hein, les fameux Manéthon et autres, hein, qui nous ont livré leurs textes jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant. Et alors, Ramsès II, Séti Ier, Moïse. Mais il y a aussi cette période de Toutankhamon. Là aussi, nous sommes en plein dans l'histoire de l'Égypte. Pour quelle raison? Ben parce que va se produire un peu avant Ramsès, la dynastie des Ramsès, un événement extrêmement important dans l'Égypte, cette époque. Cet événement extrêmement important est extrêmement simple à raconter. Tout simplement, l'évolution de millénaires de culture religieuse égyptienne nous mène dans ce nouvel empire du XVIe siècle avant notre ère. Encore une fois, mes amis, quelle distance entre 1515, Marignan, et de nos jours. On a la même distance entre 1560, ce que je vous raconte maintenant, et l'an zéro. Mesurez ce soir la distance gigantesque que ce que là représente sur le plan historique. Hein ? Imaginez qui aujourd'hui s'imaginerait d'une influence quelconque dans nos sociétés de la bataille de Marignan en 1515. Personne, hein, je vous le garantis, personne. Alors, ce qu'on peut dire, donc, c'est que, bien sûr, avant les brillants pharaons Ramsès, Séti, etc., il y a une période beaucoup plus trouble, parce qu'arrive au pouvoir un pharaon qui s'appelle Akhenaton. Et Akhenaton, qu'est-ce que c'est? C'est un pharaon qui va provoquer une véritable révolution dans ce 16e siècle avant notre ère. Tout simplement en rejetant les cultes, le culte donc de Amon-Ra, hein, c'est-à-dire le fameux dieu central de l'Égypte antique. Il va désormais se consacrer à un nouveau dieu, hein, Aton, le soleil, hein, et au syncrétisme évidemment religieux qu'il représente. Et donc il va s'appeler Akhenaton. Révolution absolument terrible, car avant il s'appelait Amenophis IV, hein, Amon, hein, Amenophis, hein, il change de nom, il provoque une révolution, les prêtres qui sont tout dans l'Égypte, hein, de cette 18e dynastie sont destitués. C'est une véritable révolution pour l'époque. Hein. Et Akhenaton se tourne désormais vers le culte d'un dieu unique solaire. Révolution religieuse. Son fils Toutankhaton est investi pour être son héritier. Mais voilà, les prêtres prennent leur revanche. Akhenaton meurt, probablement assassiné. Et Toutankhaton donc va être totalement récupéré par la caste des prêtres pour redevenir Toutankhamon, Amon-Ra. Voilà ce qui se passe à cette époque. Et c'est là que ça nous intéresse, car Toutankhamon donc n'aura qu'un règne extrêmement bref. Il meurt très très jeune, à 18 ans, et sa tombe donc va être creusée comme celle de tous les autres pharaons, puisque les pyramides c'est terminé, elles étaient pillées systématiquement par les voleurs, hein, et donc Toutankhamon donc va être enterré dans la vallée des rois, règne extrêmement bref, hein, et plus personne ne saura où est passée cette tombe, d'où l'intérêt effectivement des archéologues de la période qui va suivre pour retrouver cette tombe. Les dynasties se suivent, je ne détaille pas, il ne nous reste maintenant plus qu'un quart d'heure. Troisième période intermédiaire, à nouveau, 1070-656, on se rapproche maintenant de la période contemporaine. Ensuite, on passe à la basse époque, 656-332. Bon, évidemment, le XVIe siècle, hein, Ramsès II, hein, voit le fameux épisode, hein, de l'exil, évidemment, des Hébreux, hein, Moïse, etc., etc., je n'y reviens pas non plus. Et puis nous entrons dans la période dite gréco-romaine, hein, donc avec en effet cette fameuse Égypte ptolémaïque, hein, fondée par ce général d'Alexandre le Grand. Cela nous mène de 332 avant notre ère à 395 après notre ère, 4e siècle. La capitale est alors Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand. Et nous sommes alors dans une période tout à fait différente. C'est la fin vraiment définitive de la civilisation égyptienne. Alors, voilà l'histoire. Voilà l'histoire telle que on peut la raconter. Puis maintenant, on entre, fin de l'émission, sur la période dite de la fameuse tombe de Toutankhamon. Alors, là aussi, il y a l'énergie d'un homme, l'archéologue, qui s'appelle Howard Carter, un égyptologue britannique, qui va, pendant presque 20 ans, hein, du début du XXe siècle, guerre de 14 comprise, jusqu'au début des années 20, fouiller et fouiller encore la vallée des rois, toujours dans le même périmètre, pour donc tout simplement découvrir ce qu'il pressent au travers des textes, ce qu'il a étudié lui-même en tant qu'archéologue, que là se trouve une tombe absolument intacte d'un pharaon de la 18e dynastie, cette dynastie si brillante que l'on a évoquée tout à l'heure. Et Carter, donc le 4 novembre 1922. Alors que tout espoir semble perdu, alors que Lord Carnarvon, ce noble britannique, ce lord qui l'avait tant aidé, financièrement bien sûr, dans ses fouilles, il lui dit écoutez, il faut laisser tomber, on va arrêter. Et pourtant, en effet, il découvre l'entrée d'une tombe, et la découverte va se répandre à une vitesse absolument faramineuse, puisque, en effet, ce qu'il devinait, était une tombe inviolée. Et on montrera les photographies en 1922 des sceaux sur les portes qui n'avaient pas été brisés, de cette magnifique tombe inviolée d'un pharaon de la 18e dynastie, en l'occurrence Toutankhamon. Et attention, n'oubliez pas que c'était un gamin quand son père a été liquidé par les prêtres qui se sont révoltés contre lui, qui a été donc entièrement récupéré par la caste des prêtres d'Amon-Ra, et donc que l'on a voulu donner un faste tout particulier à cet enfant décédé. Vous savez, dans la culture égyptienne, quand on meurt, il y a le rituel de la momification, c'est-à-dire que le corps est éviscéré, le cerveau retiré par le nez, etc., etc., que le corps est baigné dans du natron pendant une certaine période, et que ensuite on conserve, pour ce que l'on pensait être l'éternité, ces corps, dans un système de bandelettes, d'où les fameuses momies. Et je vous invite même à réfléchir sur cette culture de la mort, qui, en cette période de Toussaint d'ailleurs, devrait nous éveiller, car toute cette civilisation égyptienne fonctionne autour de ça, c'est-à-dire de cette mort et d'un rituel de momification qui doit rendre le mort éternel, quelque part. Regardez l'état de conservation, mes amis, des momies égyptiennes, et vous comprendrez probablement ce que je veux vous dire. Magnifique texte de novembre 1922, que je vous lis parce que je ne peux pas résister au plaisir de le faire, de la redécouverte de cette tombe. Je dis redécouverte depuis plusieurs moments ce soir parce que, tout simplement, cette tombe avait déjà été visitée, hélas, on le sait, par les fameux voleurs, mais pas pillée, fort heureusement. Lentement, la scène devenait plus nette et nous parvînmes à distinguer quelques objets. Tout d'abord, juste en face de nous, nous le savions, mais refusions d'y croire, se trouvaient trois imposants lits funéraires, dorés, aux côtés sculptés en forme d'animaux monstrueux, dont le corps était curieusement stylisé dans un but utilitaire, mais dont les têtes faisaient preuve d'un réalisme stupéfiant. En toutes circonstances, ces figures auraient paru étranges, mais vues comme nous les vîmes, tandis que nos lampes électriques, telles les feux de la rampe, arrachaient aux ténèbres leur surface dorée, que leurs têtes projetaient sur le mur derrière elles des ombres fantastiques, distordues, ces créatures devenaient presque terrifiantes. Puis à droite, deux statues attirèrent notre attention. Deux statues de rois noirs, grandeur nature, en vis-à-vis telles deux sentinelles, pagnes et sandales d'or, armées d'une massue et d'une canne, le front bordé, orné du cobra sacré, protecteur. Et oui, voilà le texte. Et comment ne pas penser, quand on lit ce texte, aux fameuses photographies représentant ces trésors extraordinaires qui ont été retrouvés dans cette fameuse tombe. Le dégagement total de la tombe prendra 10 ans, en 1922-1932. Et bien sûr, la plupart des choses que j'ai évoquées avec vous tout à l'heure vont être exhumé au grand jour. C'est aussi là que l'on va trouver le buste de Néfertiti. Et oui, l'épouse de Toutankhamon, le fameux buste de Néfertiti, vous savez, conservé au Neues Museum à Berlin, et qui n'a pas fini aujourd'hui de décrier, souvent les théories disent que c'est un faux, tant ce buste en bois est extraordinaire et représente les traits absolument magnifiques, extraordinairement conservés de la reine Néfertiti. Je laisse évidemment à d'autres émissions cette polémique elle-même. On a dit d'ailleurs que la tombe de Toutankhamon aurait été celle d'ailleurs de Néfertiti. Et puis arrive l'histoire de la malédiction, qui quand même nous intéresse un peu ce soir. Une malédiction qui alors a plusieurs théories. Bon. Il y a la théorie comme quoi c'est une vraie malédiction, c'est-à-dire qu'effectivement on a violé la tombe du pharaon, mais vous allez voir quand on voit la liste des morts de la malédiction, dite malédiction, il y a des gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient rien à voir, ni de près ni de loin, avec cette exhumation de cette tombe en 1922. Même si effectivement violer une tombe, quelque part, dans notre culture, dans nos cultures, mais je crois dans toutes les cultures d'ailleurs, c'est quand même quelque chose, quand même, bon, quelque part on peut se dire, oui, en effet, on ne doit pas faire ça, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors tout commence avec la mort, évidemment, du canari possédé par l'archéologue, l'égyptologue Howard Carter, qui est avalé par un cobra. Les cobras étant censés protéger les tombes des pharaons. Et puis après, il va y avoir, je vous le dis, une véritable chronologie, et je vous invite d'ailleurs à regarder cette chronologie sur Wikipédia, qui est tout à fait bien faite, et qui est quand même impressionnante. 5 avril 1923, un peu de temps après, le fameux mécène féru d'égyptologie, Lord Carnarvon, meurt 4 mois et 7 jours après l'ouverture de la tombe. Avril 23. Il avait 55 ans, simplement piqué par un moustique. En mai 23, c'est le décès du professeur Lafleur, un archéologue canadien qui n'a jamais mis les pieds dans la tombe et qui était un ami de Howard Carter, l'égyptologue. Le 26 septembre 23, c'est le décès du jeune demi-frère de Lord Carnarvon. Ben, c'est son demi-frère, enfin quand même, y a-t-il une raison. 1926, c'est le décès de l'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon. 1900, alors après, la liste continue. Carter, lui-même, qui est quand même rentré dans la tombe, ne meurt pas de la malédiction. Quelques gens de son entourage, on le trace, ça fait sourire quelque part. 1969, c'est le décès de Lady Almina, veuve de Lord Carnarvon. Elle meurt à l'âge de 92 ans, vous me direz, mes amis, elle est sans doute morte d'autre chose que de la fameuse malédiction. Mais on a, c'est vrai, toute une liste comme ça, je crois que l'histoire a retenu plus d'une dizaine de morts inexplicables. Morts inexplicables, mais qui, bon, quand on fait des recoupements, pour des gens, je vous dis, peuvent être très bien morts de tout à fait autre chose. Et néanmoins, n'y a-t-il pas là une solution que de dire que, dans notre inconscient collectif, judéo-chrétien quelque part, le viol d'une tombe n'est-il pas une mauvaise chose? Je pose la question. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Parce que nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, si ce n'est de se dire, hein, ce soir, tous ensemble, bah, c'est que, bien sûr, cette histoire de momie, et donc de malédiction, la malédiction de la momie, c'est vraiment à l'origine l'affaire de Toutankhamon. Après, les blockbusters s'en sont emparés, en exploitant des histoires plus anciennes du roi Scorpion, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais à l'origine, il y a toujours l'histoire d'une momie dont on dérange en quelque sorte le sommeil et qui va se venger d'une façon ou d'une autre. Et ça va donner vraiment à alimenter dans la littérature, dans le cinéma et dans les jeux vidéo, je vous en ai parlé encore tout à l'heure, hein, avec la sortie toute récente, demain, le 27 octobre, hein, d'Assassin's Creed Origins, hein, qui porte sur l'Égypte, ça va quand même nourrir, hein, quand même, une énorme, et sans parler de Tomb Raider, voilà, Tomb Raider Lara Croft, hein, autre série hyper populaire des années 2000, celle-là, là, encore une fois, ça va nourrir un imaginaire extrêmement fertile. Alors la littérature, c'est quoi? Bah, c'est évidemment Agatha Christie. Agatha Christie, hein, les enquêtes d'Hercule Poirot, Mort sur le Nil, L'aventure du tombeau égyptien, 1923, la bande dessinée, hein, Les momies maudites, Les sept boules de cristal, 1948 par Hergé, l'aventure de Tintin, Les cigares du pharaon, 1934, toujours avec Hergé, Tintin, L'affaire Toutankhamon de Christian Jacques en 2005, La momie roman d'Anna Rice, 2005, là aussi, qui inspire évidemment ces fameux blockbusters donc, avec Tom Cruise dont on a parlé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, qui est une suite lui-même de reprises d'autres blockbusters. Hein. Et puis bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, et j'y tiens, et puis Jacob, c'est la malédiction de la Grande Pyramide, le mystère de la Grande Pyramide, l'aventure de Blake et Mortimer, que je vous recommande, qui est évidemment un chef-d'œuvre. Le cinéma, on l'a largement évoqué, The Mummy, 1999, hein, la momie, la malédiction du pharaon, donc dans un épisode de Code Quantum, et la momie elle-même, The Mummy, le film d'origine de la source de tous les blockbusters, qui est un film de Karl Freund, hein, 1932. Et puis, donc, on terminera là-dessus, mes amis, parce qu'il est bientôt 22h, hein, bien sûr, il y a les jeux, hein, les différents jeux vidéo à base de tombes, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, qui ont été violés, et qui plus est, de momies dont on dérange le sommeil, puisque n'oubliez pas que c'est cette particularité de l'Égypte, c'est que ces fameuses momies sont des morts en suspens. Rappelez-vous, dans votre culture, que vous avez peut-être encore de toutes ces histoires de l'Égypte antique, que tout l'intérêt, hein, l'intérêt scientifique, sérieux cette fois-ci, hein, des fouilles archéologiques des tombes égyptiennes, hein, et donc de la redécouverte, la découverte de cette tombe en 1922, hein, de Toutankhamon, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans ? Ben, c'est de comprendre la vie quotidienne des femmes et des hommes de cette époque, tout simplement, sans aller chercher plus loin. Pourquoi ? Parce que dans la culture de la mort qu'il y avait en Égypte, le pharaon, mais aussi tout un chacun, l'Égyptien de base, se faisait momifier ou faisait momifier une partie de son corps parce qu'il était persuadé qu'il s'agissait d'un long sommeil, hein, avant le moment où il allait reprendre une autre vie. Hein. Et c'est pour cela que dans l'accompagnement du fameux voyage du mort égyptien, on mettait tous les objets de sa vie quotidienne. Donc la vie quotidienne d'un pharaon de la 18e dynastie, des chars en or, des statues d'albâtre, etc., comme je vous en ai décrit dans ce très beau texte tout à l'heure, ça nous intéresse énormément. Ça nous permet de comprendre ce qu'était la vie des femmes et des hommes de cette époque-là. Que cela soit du plus haut personnage de l'État, qui était le pharaon lui-même, hein, jusque au ministre, jusque à l'homme et la femme de base, à l'agriculteur de l'Égypte qui vivait et s'enrichissait des récoltes qui avaient lieu plusieurs fois par an sur le Nil, qui naviguait sur ces felouks tels qu'on les voit encore aujourd'hui, hein, depuis des millénaires sur le Nil. Le Nil, l'Égypte, un des berceaux des civilisations de notre humanité. Voilà, en fait, quel est sans doute le plus beau legs, mes amis, que nous pouvons rechercher d'une émission comme celle de ce soir sur l'Égypte. Voilà avec quoi je souhaitais conclure. Nous retrouverons maintenant, mes amis, eh bien, le jeudi 23 novembre, autour donc d'une prochaine émission de 21h à 22h en direct et puis en podcast. Toujours sur la même thématique, c'est-à-dire d'un déroulement de faits historiques sur des questions qui nous font rêver, en gardant toujours un esprit ouvert, mais aussi en recadrant sur le plan historique tout ce qui peut l'être sur telle ou telle question. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée, excellente nuit. Pensez à un ciel étoilé ce soir sur le site de Gizeh et la lune qui se reflète sur les trois pyramides de Gizeh et le sphinx. Bonne nuit.